Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1.
14h-15h.
La voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre, une émission un peu spéciale aujourd'hui consacrée à John Steinbeck et aux raisins de la colère en particulier. Comme chaque semaine, nous visiterons une bibliothèque, celle de l'animateur Christophe Beaugrand cette semaine. Nous passerons voir Stan Rigaud dans sa librairie et puis Sébastien Bordenave nous rejoindra pour sa chronique bande dessinée. Mais d'abord donc, Steinbeck, La Voix est libre, c'est parti, premier chapitre. Il est américain, certes, mais il y a comme ça des écrivains, c'est le cas aussi d'Hugo, Balzac et d'autres, qui n'appartiennent plus vraiment à leur nation et deviennent plutôt un patrimoine de l'humanité parce qu'ils ont atteint l'universel, parce qu'ils ont transcendé les pays et les époques. Et c'est le cas de John Steinbeck. Les éditions des Saint-Père publient le fac-similé, la copie quasi parfaite du manuscrit des Raisins de la colère. C'était l'occasion, s'il en fallait une, pour consacrer une émission à cet écrivain et à ce grand roman, The Grapes of Wrath, pardon pour l'accent, le roman de la Grande Dépression aux États-Unis, les années 30 et la fuite d'une famille pauvre parmi tant d'autres, les Jode, de l'Oklahoma vers la Californie, terre de promesses. Roman terrible sur la misère et sur l'Amérique des laissés pour compte. Steinbeck l'écrit en 1938, en 93 jours seulement, et il obtient pour ce livre le Pulitzer en 1940. Il a 36 ans, mais il n'est pas tout à fait inconnu à ce moment-là, on va en parler. C'est un écrivain qui compte déjà, il a publié Tortilla Flat et Des souris et des hommes, mon livre préféré. Mais avec Les raisins de la colère, il accède au statut de grand écrivain, en un seul mot. Pour en parler, j'ai invité Jessica Nelson, cofondatrice des éditions des Saint-Père, habituée de La Voix est libre. Bonjour Jessica.
Bonjour.
Et Marie-Christine Lemardelet, américaniste et ancienne présidente de l'université Sorbonne Nouvelle. Merci beaucoup d'être là. Bonjour madame.
Bonjour.
Et grande spécialiste de Steinbeck. On parle justement de l'homme dans un instant, mais d'abord, fausse ouverture avec vous, Jessica Nelson. J'adore quand vous nous expliquez pourquoi vous avez choisi tel ou tel manuscrit. Alors pourquoi Steinbeck et pourquoi Les raisins de la colère en particulier et pas Des souris et des hommes, par exemple?
Il nous semblait que c'était un titre qui résonnait vraiment beaucoup avec une époque. Alors vous allez me dire, c'est un titre intemporel, mais celui-ci avait vraiment quelque chose de particulier sur évidemment les thématiques qu'il brasse. Et le document lui-même avait quelque chose de vraiment singulier dont on parlera sans doute tout à l'heure.
Oh oui. Marie-Christine Lemardelet, Steinbeck, comme Fitzgerald, comme Faulkner, est bien connu quand même des lecteurs français. Ses textes sont célèbres, sa vie peut-être un peu moins. Est-ce que vous pouvez nous dessiner, beaucoup trop rapidement, sa trajectoire de vie, à commencer par sa naissance et le contexte familial?
Steinbeck est né à Salinas, dans l'Ouest, dans la Californie de l'Ouest.
Important.
En 1902, dans une famille de la classe moyenne, je dirais, mais il a tout de suite détesté cette ville, très jeune, parce que son père avait fait faillite, il avait une minoterie, ensuite il a été obligé de tenir une boutique, ensuite d'être comptable, vous voyez, une espèce de dégringolade sociale. Ce qui fait qu'il se sentait dans une ville de nantis, de relativement nantis. Il se sentait déjà déclassé. Et ça a été très tôt, c'est assez étonnant d'ailleurs, à 14 ans, il a dit « je serai écrivain ».
C'était la question qui venait ensuite. À partir de quand décide-t-il d'écrire? 14 ans donc, mais c'est une chose de le décider.
Voilà.
C'est une autre de publier un livre. Ça va prendre du temps pour Steinbeck.
Oui, alors justement, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il a d'abord essayé d'être étudiant. Il l'a été, en réalité. Il a été à l'université de Stanford, dont il est sorti sans diplôme. Alors certains me disent, c'est pas grave, il a fait l'essentiel, il a appris des choses. Bon, d'accord.
Ça dit quelque chose quand même.
Ça dit quelque chose quand même de son, je dirais, son absence de conformisme ou de conformité avec les structures traditionnelles, comme l'université. Mais il a appris beaucoup de choses. Il a appris beaucoup de choses parce que c'était un esprit très curieux, très éclectique. Il est allé à des cours de creative writing très tôt. Mmh. Il est allé aussi suivre des cours de dissection, d'anatomie, en disant « je voulais en savoir plus sur les gens ». Donc ça, ça dit beaucoup sur son goût pour l'observation scientifique, son respect pour la science. Et c'est quelque chose qui influence son style d'écriture.
Alors, il fait 1000 métiers et il publie quelques romans. Et puis, un jour, il y a Tortilla Flat, c'est ça, en fait. C'est avec celui-ci que commence le succès.
Oui, avec Tortilla Flat, qui est dans une veine pastorale, un peu folklorique, je dirais.
Humoristique, même, humoristique, on peut dire. Oui. Ce qui ne correspond pas du tout au Steinbeck qu'on connaît plus, non, avec Les raisins de la colère, justement, voilà, ou Des souris des hommes, qui sont plus dramatiques.
Et il y a un roman en 1936 qui est considéré comme un roman de grève, qui raconte une grève, In Dubious Battle, en un combat douteux, qui là lui vaut un grand succès déjà littéraire. Mais aussi, c'est le début d'un malentendu parce que, comme il décrit des syndicalistes, le Parti communiste lui reproche d'en faire un portrait négatif. Et au pays du capitalisme, les autres lui reprochent d'être communiste. Donc ça commence comme ça. Et cette difficulté d'être accepté en territoire américain ne cessera jamais de toute sa vie.
On lui reproche sans arrêt des choses, mais à chaque roman à Steinbeck. Mais surtout, ça explique peut-être cela d'ailleurs, il doute beaucoup.
Il doute beaucoup.
Et même Les raisins de la colère, il dit à la fin quand il a écrit... En fait, je pensais faire un grand livre, mais c'est assez ordinaire, voilà, même si c'est le mieux que je puisse faire.
Oui, oui. Et d'ailleurs, il y a eu des galops d'essai, je dirais. Il s'est repris à plusieurs fois avant de faire ce que je considère toujours comme un chef-d'œuvre. Il a écrit d'abord des articles pour le San Francisco News, des articles sur les migrants. Il a fait une série de 7 articles qui ont été regroupés, sous le titre « The Harvest Gypsies ». On pourrait dire les gitans de
la moisson.
De la moisson, oui. Il a fait un roman inachevé. Alors moi, je ne l'ai jamais vu. Il y a sûrement des traces quelque part, mais je ne sais pas où. Qui s'appelle The Oklahomans. Donc déjà, le thème des gens originaires de l'Oklahoma. Et enfin, un roman, L'affaire Lettersburg, qu'il a carrément détruit. Et là, les raisons pour lesquelles il n'aime pas ce roman, il va jusqu'à le détruire, les raisons sont très intéressantes, je trouve, parce qu'il dit, c'est un roman, mon père aurait dit que c'était le roman d'un crâneur, d'un monsieur je sais tout, de quelqu'un, d'un frimeur, quoi. Et comme j'ai choisi la satire, ça veut dire que je déforme la vérité. Et moi, mon but, c'est la vérité. Donc, vous voyez, il est obligé d'écrire plusieurs textes, dont deux qu'il va détruire, avant d'arriver à écrire Les raisins de la colère. Et ce que montre... le manuscrit, est-ce qu'on savait, mais on le voit là, c'est que ce roman a été écrit dans une espèce de fièvre.
Jessica Nelson.
Mais c'est vrai que ces tentatives, elles sont passionnantes et qu'il les documente très bien dans ses journaux divers et notamment un journal qui s'appelle Working Days et qui raconte la genèse des raisins de la colère. Et l'affaire Lettersburg dont vous parliez il y a un instant, je crois me souvenir qu'il en avait dit que c'était un livre méchant. Oui. Alors qu'il n'avait pas envie d'être dans quelque chose de méchant, il avait envie d'être dans une certaine forme d'empathie avec ses personnages, une empathie à distance évidemment, qui est la distance de l'écrivain. Et donc il n'était pas dans le ton qu'il souhaitait avoir pour raconter ce livre magistral dont il percevait, me semble-t-il, que ce serait le livre de sa vie.
Le livre de sa vie, c'est Les raisins de la colère. Restez avec nous, on en parle dans un instant.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue, émission consacrée à John Steinbeck aujourd'hui avec la parution aux éditions des Saint-Pères du fac-similé du manuscrit des raisins de la colère, le chef-d'œuvre de Steinbeck, toujours avec nous Jessica Nelson, l'éditrice du livre, et Marie-Christine Lemardelet, ancienne présidente de la Sorbonne Nouvelle et américaniste et spécialiste de Steinbeck. Jessica Nelson, Les raisins de la colère, donc écrit en 1938, écrit en 93 jours seulement, et effectivement quand on regarde le manuscrit, on voit très bien qu'il n'y a pas de pause dans l'écriture, c'est tout serré et puis on sent que ça a été écrit presque d'une traite. Alors il dormait un petit peu, mais enfin quand même.
Il était très concentré, hein. Je crois que je parle sous la houlette de Marie-Christine, mais je crois qu'il était très concentré, très assidu, qu'il veillait à ne pas être interrompu dans la mesure évidemment du possible. Et c'est vrai que dans le manuscrit, il y a une espèce de continuité enfiévrée qui se traduit dans une écriture qui est assez serrée, assez minuscule. Et plus on avance dans le manuscrit, plus on va voir que finalement, là où il laisse un peu d'espace, ça devient quelque chose de plus en plus condensé, comme s'il avait voulu faire entrer un maximum de mots dans un minimum de pages. Et c'est assez étonnant. Alors, on peut se dire aussi légitimement qu'une fois qu'on est lancé dans l'écriture d'un roman, évidemment, on est pressé de progresser et que la forme importe un peu moins que le fond, ce qui expliquerait une lisibilité différente et parfois un peu chaotique dans le manuscrit.
Marie-Christine Lemardelet en parlait tout à l'heure de la vérité très importante pour Steinbeck, et ça traduit peut-être cette volonté-là, c'est-à-dire d'avoir tout dans la tête et surtout de ne rien oublier et d'écrire très très vite pour qu'il n'y ait pas de mensonges qui s'invitent, de fiction en fait, on pourrait dire, de trop de fiction en fait dans la vérité documentaire, parce qu'il se documentait beaucoup aussi, John Steinbeck.
Alors oui, il y a les deux, il y a la vérité documentaire, mais il y a quand même... Le goût, la volonté, le désir, et il utilise beaucoup will, la volonté, justement dans ses journaux, de créer une œuvre d'art. Il veut coller au réel, mais quand même créer une œuvre d'art. Et c'est ça que je trouve extraordinaire dans le manuscrit, c'est de voir qu'il arrive à suivre son propre fil, alors qu'avec justement les fameux chapitres intercalaires qui élargissent la vision, le panorama, il pourrait se tromper. D'ailleurs, il se trompe quelquefois, mais après, il justifie ses erreurs, entre guillemets, ce que nous, on pourrait considérer comme des erreurs.
Dans ce roman-là, il raconte la Grande Dépression, l'exode des populations pauvres vers la Californie. C'est une période de quoi ? Une dizaine d'années, mais qui a traumatisé l'Amérique pour toujours.
C'est vraiment un traumatisme, puisque la terre ne donnait plus rien. La terre était devenue sèche, c'est le fameux Dust Bowl. Et comme il y a dans l'idéal américain un idéal... de petits propriétaires terriens, hein, c'est l'idéal jeffersonien. Chacun doit avoir son petit lopin de terre et cultiver sa propre nourriture. Les Jodes étaient des propriétaires et ils ont été obligés de quitter leur possession, toute leur possession, mais surtout la terre.
Les Jodes qui sont les héros du roman et qui partent vers la Californie.
C'est ça. Et ce thème-là, je crois que c'était nouveau de le traiter comme ça. Et en même temps, ce qui est extraordinaire, je trouve, c'est qu'au fil des années, on s'aperçoit que ce thème est toujours d'actualité. Par exemple, la crise des subprimes en 2008, c'est à peu près la même histoire que l'histoire des Jones.
Des gens qui deviennent pauvres tout à coup.
Tout à coup, parce qu'ils ont trop emprunté, on leur a fait miroiter des tas de choses et ils perdent leur maison. C'est la même chose que les Jones pour des raisons un peu différentes, mais c'est toujours une monstruosité du capitalisme, si vous voulez. Et là, maintenant, en ce moment, avec l'accélération de l'urgence climatique, on voit le récit de réfugiés climatiques. Les Jones, c'est des réfugiés climatiques.
C'est intéressant parce que la Grande Dépression, c'est à la fois, évidemment, une défaite et une crise d'un système économique, mais c'est aussi climatique. On parlait des tempêtes de sable qui traversent toute l'Amérique. C'est ça aussi ce qui crée la sécheresse et qui en fait chasse les paysans de leurs terres parce qu'il n'y a plus rien à faire sur ces terres-là.
Alors, ce sont des causes qui paraissent naturelles dues au climat, mais qui sont aggravées par justement l'industrialisation de l'agriculture. Les fameuses cultures intensives de coton, par exemple, qui demandent beaucoup d'eau, qui épuisent la terre, qui épuisent les réserves d'eau. Donc c'est exactement le même phénomène que ce qu'on décrit en ce moment.
C'est un succès immédiat, je crois.
Oui.
Mais en revanche, il ne se fait pas que des amis.
Voilà.
C'est-à-dire que les Californiens, lui est Californien, et les Californiens se sentent trahis, en fait. Ils n'acceptent pas qu'un des leurs, d'une certaine manière, ose les brocarder, les critiquer très fermement en disant « Vous avez tous, les autres n'ont rien, ouvrez vos portes. »
Absolument. Il y a même des gens qui sont allés jusqu'à écrire, alors ça n'a pas laissé beaucoup de traces, mais... anecdotiquement, les raisins de la joie, pour dire.
Oui, c'est une réponse aux raisins de la colère.
The grapes of gladness.
Les raisins de l'allégresse.
De l'allégresse.
Pour dire la Californie, c'est merveilleux et tout le monde est gentil.
Voilà. Et oui, effectivement, la critique est vécue par les Californiens comme une trahison et presque comme un crime antipatriotique.
Et c'est aussi les mythes qu'il met à bas. Steinbeck, il y a évidemment le mythe de l'Ouest d'abord. On parlait de la Californie.
Ouais.
Les États-Unis se sont construits sur ce mythe de la destinée manifeste et de vers l'Ouest, tout ira mieux.
Absolument. Et le point de départ, effectivement, ce sont des rêves de cette famille qui se disent que là-bas, ça sera le pays de cocagne, il y aura de l'argent qui coulera, mais surtout des fruits d'or, des oranges, etc. Et c'est très inhabituel pour l'époque, en tout cas. Après, bien sûr, on a vu critique encore plus construite, mais inhabituel de critiquer le modèle américain de la conquête de l'Ouest, Land of Opportunity, la frontière où tout est possible, où on peut se réaliser, on peut réaliser tous ses rêves. Quand on veut, on peut. Enfin, toute cette idéologie-là de l'Amérique, évidemment, est complètement mise à mal par ce roman.
Jessica Nelson.
Je pensais en vous écoutant qu'il y a certains, enfin beaucoup de détracteurs de Steinbeck à l'époque qui, s'ils avaient découvert le manuscrit, auraient été encore plus fâchés puisque on voit dans le manuscrit, dans le document, que certains passages ont été supprimés. Alors, pas énormément, mais enfin, il y a quelques passages justement relativement acerbes contre le non-accueil des migrants et contre les rapports entre les fermiers, les banquiers et tout ce système-là établi qui ne profitait évidemment pas aux classes qui en avaient le plus besoin, qui ont été enlevées à la demande de l'éditeur à l'époque. Et peut-être Steinbeck, je pense, a dû hésiter à deux fois avant de se plier à cette injonction. Mais en tout cas, c'est des passages qui figurent encore dans le manuscrit.
Oui, parce qu'il ne faut pas se tromper, on ne parle pas de critique littéraire là. Steinbeck même craignait pour sa vie.
Oui. Il craignait pour sa vie et il y a même des bibliothécaires qui ont brûlé son livre, ce qui est quand même assez primitif comme manière de réagir, je trouve. Il faut dire aussi que sa femme, Carol, avait adhéré au Parti communiste pour enrager, enrager l'association des fermiers.
À l'époque, c'est...
Alors ça a été retenu contre lui, bien sûr. Aux États-Unis, il n'y a rien de pire que ça.
Ne bougez pas, on met un marque-page dans le monument. On se retrouve dans un instant.
La voix est libre.
Nicolas Carreau.
The Joe drove away to the jungle camp. There they cooked a stew. And the hungry little kids of the jungle camp said, we'd like to have some too. Said, we'd like to have some too.
La Voix est libre, troisième chapitre avec John Steinbeck et les raisins de la colère. Marie-Christine Lemardelet et Jessica Nelson sont toujours là. Jessica Nelson, je rappelle que vous avez publié encore un magnifique objet, le facsimilé du manuscrit, c'est-à-dire la copie parfaite, quoi. Et alors, il y a beaucoup de choses à en dire. Il y a une écriture très serrée, très fine. Et surtout, quand on ouvre le manuscrit, là, je l'ai là, on se rend compte qu'il y a des lettres comme ça, sur le côté, comme si c'était une sorte de gigantesque répertoire.
Alors oui, c'est effectivement curieux avec ce manuscrit parce qu'il me semble que pour d'autres de ses textes, il écrivait plutôt dans des carnets à spirale. Mais en tout cas, pour celui-ci, on s'est trouvé face à deux grands cahiers, carnets surdimensionnés avec ses répertoires alphabétiques sur le côté. Évidemment, en tant qu'éditeur, ça fait partie des questions qu'on s'est posées, pour lesquelles nous avons consulté Marie-Christine, Suzanne Schillinglow, qui est spécialiste aux États-Unis. Et on est vraiment parti sur cette idée qu'il fallait qu'on restitue, dans la mesure du possible, hein, parce qu'il y a quand même quelques petits défis techniques, les lignes que vous voyez, les onglets en question, évidemment, la taille du document qui est assez inhabituelle relativement à ce qu'on a fait jusqu'à présent.
Où est-ce que vous l'avez trouvé ?
Eh bien, il est conservé à l'Université de Virginie, puisque Steinbeck l'avait offert à Carole et qu'une quinzaine d'années après, me semble-t-il, elle l'a ensuite transmis à l'Université de Virginie, où il est conservé depuis les années 60, mars 1960, je crois.
Marie-Christine Lemardelet, quand on aime à ce point-là un écrivain comme vous aimez Steinbeck, ça fait quelque chose de voir le manuscrit comme ça.
Ah oui, j'ai été saisie parce que j'ignorais sa taille, sa forme. Déjà, quand je l'ai reçu chez moi, j'étais assez étonnée. Je me suis dit, mais c'est pas un livre de poche. Mais surtout, j'ai voulu savoir, moi aussi, d'où venait ce format. Et j'ai lu quelque part, mais j'ai oublié où, que c'était sans doute les cahiers de comptes, de comptabilité de son père. Et ça me plairait assez comme interprétation parce que il avait beaucoup d'amour pour son père, qui aussi aimait relier les livres dans sa cave. Enfin, c'était un personnage un peu effacé, mais Steinbeck l'aimait beaucoup. Donc, c'est une sorte d'hommage oblique à son père. Enfin, si c'est ça, la réalité, je n'en suis pas tout à fait sûre, mais ça serait plausible. Je trouve ça assez joli comme raison.
C'est une écriture noire ou bleue, mais il y a aussi parfois des petits traits rouges comme ça. Et ça, c'est Carole, c'est Carole. Sa femme qui corrige, c'est ça ?
Ah oui, que serait un grand écrivain sans une femme quelque part, enfin Nicolas. Non, c'est effectivement Carole, et c'est, je trouve, ça fait partie des choses qui sont très émouvantes dans le manuscrit, parce que, évidemment, on imagine bien Steinbeck dans sa petite chambre minuscule, avec de la musique en fond sonore, on ne l'embête pas, il est claquemuré, mais il y a quand même la présence de son épouse à côté, qui tape, hein, qui fait la sténo, et plus que la sténo, puisqu'elle va rectifier un peu de ponctuation, qu'elle va, dans le manuscrit, on voit des césures en rouge, c'est qu'elle sépare les paragraphes, elle sépare les dialogues, donc elle met de l'ordre, d'une certaine façon, dans ce manuscrit, et c'est sa contribution à elle, et je trouve ça formidable de pouvoir l'observer. Il n'y a que dans les manuscrits que vous trouvez ce genre de choses. Ça me fait penser évidemment au manuscrit de Frankenstein. On voit les interventions de Percy sur le travail
de Mary Shelley.
Le mari de Mary Shelley. Et ça, c'est génial parce que vraiment, toutes ces traces-là n'existent plus évidemment dans des éditions traditionnelles.
Et puis surtout, c'est Carole qui trouve le titre.
Oui, alors ça, c'est un titre qu'elle trouve au mois de septembre et qui est emprunté à un hymne chanté pendant la guerre de sécession par les soldats abolitionnistes contre les États du Sud ségrégationnistes. Et donc, c'est un titre qui, visiblement, a parlé au couple et à Steinbeck qui a décidé d'en faire le titre de l'ouvrage. La phrase, d'ailleurs, existe à un moment du manuscrit. On le trouve une seule fois dans le manuscrit et c'est devenu... Voilà. Et je crois aussi qu'un de leurs amis... Qui était auteur de films documentaires, avait travaillé aussi sur la question et avait probablement participé à la réflexion autour de ce titre.
Ça, c'est comme des souris et des hommes, c'est des titres mythiques. D'ailleurs, dès qu'il y a une grève ou un conflit, il y a toujours un journal pour titrer les raisons de la colère.
Les raisons de la colère.
En référence aux raisons de la colère, bien
sûr. Moi, j'ai trouvé, sans chercher, je n'ai pas collectionné, mais j'ai trouvé les cerises de la colère.
Vous avez fait une liste.
Oui, enfin, je les ai retrouvés là en feuilletant mes papiers. The Cherries of Wrath dans un vieil article de The Economist. Donc, vous voyez, journal très sérieux anglais. Donc, c'est devenu une expression. Ou bien, j'ai trouvé aussi les fraises de la colère. Et toujours autour du même sujet, c'est-à-dire des travailleurs saisonniers qui sont mal payés, qui n'ont nulle part où aller, etc.
C'est la consécration vraiment ultime des écrivains quand leurs titres deviennent quasiment une expression, en fait.
Oui.
Il y a autre chose dans ce manuscrit, à la toute fin, qu'on découvre. Il y a, est marqué évidemment, End, la fin, END.
Classique.
Mais juste en dessous, en rouge, donc peut-être Carole, on ne sait pas, mais c'est marqué en lettres capitales, SLUT, S-L-U-T. Qui veut quand même dire, pardon, mais salope, en anglais, qu'est-ce que ça fait là ?
Je ne sais pas si vous imaginez ma tête en recevant les images du manuscrit. Honnêtement, c'est la surprise. Et comme on se le disait tout à l'heure, peu de gens avaient finalement eu accès au manuscrit jusqu'à présent. Et donc, il y avait une vraie question qui se posait parmi les spécialistes. On en a discuté avec Marie-Christine, avec Suzanne Schillinglow. Et c'est vrai que ce mot, qui l'avait écrit ? Est-ce que c'était Steinbeck ou Carole ? Est-ce que c'est un archiviste pas précautionneux ? Est-ce que c'est... Et puis, il est un peu effacé comme ça. C'est pas non plus, vous l'avez pas écrit en lettres rouges sang.
Et puis, la scène finale met en scène une femme.
Elle met en scène
dans une
femme.
Position qui avait été très controversée d'ailleurs à l'époque, parce qu'il s'agit d'un de ses seins.
Ben oui.
On racontera pas l'histoire pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, mais enfin, la toute fin, on se dit... Mais c'est pas possible qu'il ait écrit ça. Ou alors c'est un énorme goujat, quoi.
Bah ça allait pas du tout avec l'image qu'on a de lui, parce que finalement, tout au long du roman, les femmes ont quand même un rôle hyper important, et c'est les femmes qui véhiculent une certaine forme de courage, de noblesse. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai lu. Mais c'est vrai que ce mot-là était très étonnant. Et finalement, la réponse est venue ensuite, après la publication du livre, et c'est là où je trouve que c'est très beau de se dire que finalement, un livre... puisqu'il va arriver à dépasser à faire connaître quelque chose, en l'occurrence un manuscrit, c'est cette publication qui a amené une réponse, puisqu'on a eu un très bel article dans Le Guardian, et suite à cet article dans Le Guardian, des chercheurs en Suède nous ont contacté Suzanne Schillinglow pour nous donner la réponse. En fait, tout simplement, slut veut dire la fin.
En suédois.
En suédois. Et à l'époque, un petit peu avant l'écriture des Raisins de la colère, John Steinbeck et son épouse Carole connaissaient bien un peintre suédois, sont allés le visiter là-bas. Et la mère de ce peintre était auteur pour la jeunesse. Et donc probablement, très certainement, connaissait-il cette expression. Et il s'agirait ici d'un trait d'humour de Carole à la fin du manuscrit.
Ouf !
Ouf !
Merci beaucoup Marie-Christine Lemardelet. Et merci Jessica Nelson pour ces manuscrits qui sont toujours des objets magnifiques et vous créez aussi, l'air de rien, une sorte de conservatoire géant en fait, en le distribuant comme ça à des milliers de particuliers. Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
À bientôt.
Europe 1.
Restez avec nous, Jessica Nelson et Marie-Christine Lemardelet. Dans un instant, visite de bibliothèque. Nous partons chez l'animateur Christophe Beaugrand.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre, chapitre bibliothèque maintenant. Il est animateur de télévision sur TF1 et LCI, mais il est aussi père avec son mari. Je veux parler de Christophe Beaugrand qui raconte son histoire dans un livre chez Plon, Fils à papa avec un S. C'était l'occasion d'aller voir de quel livre il se chauffe. Allons-y. Bonjour Christophe Beaugrand.
Bonjour Nicolas Carreau.
Merci de nous recevoir dans votre maison. On est en région parisienne.
Oui.
Jolie maison avec un petit jardin.
Avec un petit jardin et une grande bibliothèque.
Voilà, on est dans votre salon et il y a beaucoup de livres.
Oui.
Dans deux très jolies bibliothèques. Moi, ça m'intéresse aussi beaucoup les meubles.
Oui.
C'est vous qui avez fait faire ces meubles pour mettre tous vos livres?
J'ai eu la chance quand je suis arrivé ici.
De part et d'autre d'une très belle cheminée.
Oui, c'est vrai, j'ai de la chance. Donc, quand je suis arrivé ici, effectivement, il y avait ces deux grandes bibliothèques qui avaient été fabriquées par les propriétaires précédents qui ont passé plus de 40 ans. C'était la maison de leur vie, en fait. Donc, c'est une maison qui avait beaucoup de bonnes ondes positives. Et quand j'ai vu ces magnifiques bibliothèques, je me suis dit, je vais pouvoir enfin ranger tous mes livres. Donc j'étais content. Mais j'avais quand même pas assez de place, donc j'en ai fait faire une autre à l'étage où j'ai mon bureau.
Donc là, on est dans un salon très ouvert avec une belle vue sur le jardin. Est-ce que c'est là que vous lisez?
Un
canapé, comme dans n'importe quel salon et tout ça. Il y a un petit fauteuil.
Je lis parfois ici et je lis parfois dans la pièce derrière. J'ai fait faire une véranda. Et j'ai une grande véranda et c'est assez agréable. J'ai deux grands canapés. Là, pour lire, c'est super parce qu'il y a une bonne luminosité en plus. Parce qu'à partir d'un certain âge, c'est mieux d'avoir une bonne luminosité parce que sinon, après, tu as les yeux qui piquent un peu au bout d'un moment.
Ben, revenons au livre à lire alors dans le salon. Donc, il y a deux grandes bibliothèques, de part et d'autre d'une belle cheminée. Et j'avoue que j'ai du mal,
avec
comme
un parquet
ça, de
qui
loin,
un peu, pardon.
Oui, à voir le classement.
Alors, c'est normal de ne pas voir le classement parce que c'est classé dans le désordre. C'est classé en fonction de la façon dont je les ai posés.
Il y a du roman graphique, des beaux livres aussi, de photos.
Ouais, de la BD, des livres politiques, des livres de photos. Il y a des table books donc, sur une table basse aussi. Ouais, il y a un peu de tout, mais c'est ça que j'aime bien aussi. J'aime bien pouvoir regarder et être surpris parfois. Je crois que c'est pas si mal finalement que ce soit pas rangé.
En tout cas, c'est classé aussi par format, quoi.
Par taille, ouais.
Voilà, il y a une cohérence, quoi.
Il y a une certaine cohérence, mais enfin, on a des choses mélangées, hein, parce que on peut se retrouver. Voilà, par exemple, il y a l'intégrale de Karl Barth, c'est-à-dire de celui qui a créé Donald Duck. Donc, j'ai des bandes dessinées de Donald Duck qui sont juste à côté de livres de photos ou de Bret Easton Ellis. Donc, voilà, c'est et d'à côté d'un livre politique sur les haines à droite, par exemple, avec Sarko, etc. Le procès Sarkozy. Etc. Donc, voilà, moi, c'est on va dire que c'est un joyeux foutoir.
Beaucoup de romans aussi. Et là, je vois un de mes romans préférés. C'est L'Anomalie,
oui,
d'Hervé Le Tellier, prix Goncourt. Mais alors, vous avez refait la couverture. C'est-à-dire que c'est la belle couverture blanche de Gallimard.
Oui.
Mais il y a comme une sorte d'essai graphique dessus au stylo violet.
Elle a été customisée, cette couverture. Mon fils m'a vu tout l'été avec, parce que je l'ai lu avec un an de retard, hein, ce livre. Mais je suis toujours un peu à la bourre, mais j'ai adoré.
Pourquoi ?
C'est une expérience formidable, ce livre, bah, parce que tu te fais balader, c'est génial. J'ai vraiment adoré, j'ai eu la chance de ne pas être spoilé, de ne pas en avoir lu trop avant. J'en avais entendu parler comme tout le monde et j'en avais entendu le pire comme le meilleur. Grosso modo, soit il y a ceux qui ont adoré, soit ceux qui ont détesté. Du coup, mon fils m'a vu avec ce livre tout l'été, la période où je l'ai lu. Et je pense qu'il s'est bien amusé avec. Il a piqué un stylo et il a... Voilà, mais c'est un artiste. Hein. Il a fait une sorte d'œuvre d'art. Donc, c'est un collector, hein, du coup.
Vous lisez comment et pourquoi? Vous allez chercher chaque année le prix Goncourt?
Vous vous fiez
aux critiques? Vous flânez dans les librairies? Comment vous les trouvez, vos livres?
Parfois, ce sont des amis qui me les conseillent. Parfois, je vais dans la librairie et je me laisse guider. Souvent, j'aime bien Les petits coups de cœur des libraires, quand c'est écrit à la main par les libraires, ça me... En tout cas, j'aime bien lire ces petites étiquettes pour voir si elles me donnent envie. Il m'arrive assez rarement, finalement, d'aller dans, une librairie en sachant ce que je vais acheter. Généralement, j'aime bien me laisser surprendre. Et puis après... je lis aussi parfois pour le boulot des trucs que je n'ai pas nécessairement choisis pour des émissions que je peux faire. Alors, je les ai choisis dans une certaine mesure parce que j'ai choisi de parler de tel ou tel livre. Mais ces derniers temps, j'ai eu pas mal pour mes émissions d'LCI d'inviter en mode témoignage, donc des livres politiques ou des livres témoignages qui ne sont pas forcément des grandes œuvres littéraires, mais en tout cas qui racontent des histoires qui expliquent la société d'aujourd'hui. Ça me passionne aussi.
Alors, vous, ce que vous préférez aussi, c'est la bande dessinée. On va y venir. Mais oui. Parmi les livres sans images, vous préférez les essais ou les romans ?
Plutôt les romans, oui. Moi j'ai vraiment ce qui m'a donné envie de lire, c'est Maupassant quand j'étais gamin. J'étais fan de Maupassant, j'ai adoré au collège, au lycée, dévorer du Maupassant. Et ce que j'aimais chez Maupassant, c'était cette espèce de générosité dans l'écriture. C'est l'équivalent des feuilletons qu'on voit à la télé aujourd'hui, ce que faisait Maupassant finalement. D'ailleurs, il publiait dans les journaux des histoires à suivre comme ça. Et je ne vais pas dire que c'est l'équivalent de Plus belle la vie, Maupassant, parce que ce n'est pas ça. Et je me ferai engueuler, j'ai vu votre grimace. Mais mine de rien, c'était du feuilleton. Et c'était aussi pour... raconter des histoires et divertir les gens. Et moi, j'aime bien ce côté non intellectuel, entre guillemets, de la littérature, mais l'envie de partager. C'est surtout ça qui me plaît. Donc, les trucs de branlette intellectuelle, ça ne m'intéresse pas. Et c'est, moi, j'aime plutôt qu'on me raconte des histoires. C'est pour ça que j'ai adoré l'Anomalie, parce que là, on me raconte une histoire, on me fait rêver, on me fait partir quelque part. Voilà.
Maupassant, c'est l'école qui vous l'a fait découvrir ?
Oui, pour le coup. Moi, je fais partie de... Vraiment, enfin, voilà, je fais partie de ces enfants de la République. Moi, je n'ai pas été en cours privé. J'ai des parents qui lisaient, mais sans plus, à vrai dire. Donc, j'ai vraiment découvert la littérature au collège, au lycée, à l'école, au collège et au lycée. Et après, j'ai fait des études littéraires. Donc, c'est l'école qui m'a instruit ce goût de lire, qui m'a donné ce goût de lire.
Il y a La nuit des temps de Barjavel.
Et je l'ai relu il n'y a pas longtemps, pendant le confinement.
C'est le roman qui ressort à chaque fois en pole position quand on demande aux Français quel est leur roman préféré.
Ah ouais ? Mmh. Ah, je ne pensais pas, c'est marrant parce qu'en le relisant, à la fois j'étais vachement dedans et en même temps ça a un côté hyper kitsch. T'es un peu ringard quand même, t'as l'impression de regarder un épisode de Cosmos 99 parce que c'est de la science-fiction d'une époque qui te semble un peu décalée aujourd'hui, mais c'est génial.
C'est drôle, c'est pas commun comme visite de bibliothèque parce que y a tous les styles qui se côtoient et il y a La Peste de Camus à côté des Nouvelles Chroniques de San Francisco, à côté de...
d'Armistée de Maupin, ça c'est fait partie des bouquins que j'ai adorés quand j'étais un jeune adulte qui se découvrait aux mots et ce sont des histoires là pour le coup comme un feuilleton, hein, ça pourrait être
énorme
peu,
succès,
un peu de la comédie humaine en quelque sorte, mais ça raconte des histoires d'amis à San Francisco dans les années 80 et de la vie gay à San Francisco et ça fait partie des bouquins. Tu te rends compte quand même dans ta vie qu'il y a des livres qui te permettent de te sentir moins seul et de comprendre peut-être un peu plus qui tu es. Et ces bouquins-là, ça en fait partie. Et en même temps, c'est via ce que je disais tout à l'heure, du pur divertissement. C'est pas, on donne aucune leçon dans ce type de livre. C'est du feuilleton, quoi. Il y a du rebondissement, il y a des surprises. Et c'est ça que je demande à la littérature, moi.
Mais justement, pourquoi vous lisez, vous ? C'est pour chercher du réconfort ou au contraire essayer d'autres points de vue ou les deux ? Ou est-ce que d'ailleurs vous avez un objectif quand vous lisez autre que le divertissement ?
Ouais, non, honnêtement, quand je lis, moi, c'est pour m'amuser, pour me divertir, pour m'amuser, pour
partir
ailleurs.
Vous venez m'expliquer que les Chroniques de San Francisco, ça avait été un réconfort incroyable.
Ah oui, mais parfois on part sur un bouquin pour s'amuser et on se rend compte que ça nous sert pour notre vie, en fait. Ça part comme ça, juste d'un amusement, d'une légèreté, d'un divertissement, et on se rend compte que c'est un peu plus profond derrière.
Juste à côté, enfin non, d'ailleurs, sur l'autre bibliothèque, vous avez une très belle édition des Fleurs du Mal de Charles Baudelaire.
J'arrive, hein, je range mon bouquin.
Oui, mais j'ai remarqué, à chaque fois que j'enlève un livre, il faut absolument le remettre à sa place.
Ah bah oui, bah sa place qui n'en est pas une.
Qui n'en est pas une.
Mais c'est pas grave.
Vous avez un côté maniaque comme ça ?
Bah pas suffisamment puisque c'est pas bien rangé, mais oui, bah là, oui, j'aime bien que les choses soient à leur place quand même. Je me suis quand même cassé la tête pour tout ranger avant que vous veniez, alors c'est quand même pas pour me mettre le bazar maintenant.
Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire dans une très belle édition. C'est quoi, vous êtes fan? Cadeau?
Non, c'est un cadeau que je me suis fait à moi-même. C'est une édition, j'ai acheté ça, je pense. En fait, j'ai entendu parler de cette édition, mais un peu tardivement, donc je l'ai cherché sur Internet l'année dernière. Et je l'ai trouvé dans une, c'était dans une petite librairie qui faisait de la vente à emporter aussi par Internet. Et du coup, la tranche est dorée.
Très jolie.
C'est magnifique. En fait, c'est la réédition de la plus belle édition qu'il y a pu y avoir en 1917 des Fleurs du Mal avec les illustrations d'origine. Et bon, après, tous les poèmes que, pour le coup, tout le monde connaît parce que ça fait partie des choses en général qu'on apprend à l'école. Les Fleurs du Mal, on a au moins quelques poèmes qu'on apprend, qu'on étudie, a fortiori si on fait des études littéraires. Moi, j'ai fait un bac L. Ça n'existe plus, non ? Je ne sais plus comment ça s'appelle.
Non, ce n'est plus tout à fait un bac L maintenant. Il faut choisir, je crois, des spécialités.
Oui, on a des options plus tard, là, tout ça. Mais bon, moi, donc, je faisais partie de ce bac qui était vu par tout le monde comme un bac de branleur. Mais moi, je l'ai choisi. Ce n'était pas par défaut. J'avais vraiment envie. Et je me rappelle, à l'époque...
C'est un très beau bac.
C'est un très beau bac, je suis d'accord. Mais à l'époque, quand j'étais en seconde et que j'ai dit que je voulais faire littéraire, j'étais plutôt un bon élève. J'étais même un très bon élève à l'époque. Et
on a essayé de vous dissuader ?
Mais totalement. J'avais ma prof de maths qui me dit mais vous gâchez votre talent, c'est une catastrophe de faire une chose pareille. Mais ils ont essayé de me dissuader, vraiment. Hein. J'étais dans un lycée plutôt scientifique, en plus, là où j'habitais, dans la vallée de Chevreuse. Là. Et du coup, j'ai tenu bon. Et je ne regrette pas parce que ça fait partie. Je pense que je me serais beaucoup emmerdé sur un bac scientifique. Mais surtout, ça m'a permis de découvrir d'autres choses.
Et vous avez beaucoup de recueils de poésie ou c'est particulièrement Baudelaire ?
Non, alors non, pour le coup, je lis très peu de poésie, mais Baudelaire m'a particulièrement. Qu'est-ce qu'il me regarde comme ça ?
Faire une récitation.
Ah d'accord, mince.
Est-ce que vous connaissez votre leçon ?
Ça dépend. Non, alors j'en connais quelques-unes.
Par exemple ?
Non, mais alors, on connaît tous, c'est dans la chevelure. Non, c'est ici, tout n'est... Non, l'invitation au voyage. Ici, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Non, c'est facile, j'en connais qu'une phrase. Non, moi, celui que je connaissais bien, c'était l'horloge, qui n'est pas le plus connu. Sur le temps qui passe. Alors je vais essayer de m'en souvenir parce que là je sens que
je tiens à la j'ai ouvert à la page de l'horloge.
J'ai pas révisé avant de. Alors attends.
Lancez-vous.
Horloge, dieu sinistre, effrayant, impassible, dont le doigt nous menace et nous dit souviens-toi, les vibrantes douleurs dans ton cœur plein d'effroi se planteront bientôt comme dans une cible. Tantôt sonnera l'heure, mais c'est un peu après ça.
Le plaisir vaporeux
fuira vers l'horizon ainsi qu'une sylphide au fond de la coulisse. Chaque instant te dévore un morceau du délice à chaque homme accordé pour toute sa saison. Tantôt sonnera l'heure où le divin hasard, où l'auguste vertu, ton épouse encore vierge, où le repentir même à la dernière auberge, où tout te dira meurs vieux lâche, il est trop tard.
Vous avez sauté trois strophes.
Mais ah merde, ben voilà.
Mais tout était bien sinon.
J'en ai loupé, c'est bien
vous n'avez
ça.
Pas loupé un seul mot les trois strophes que vous nous avez récitées. Merci beaucoup. Et alors c'est marrant parce que vous récitez avec votre doigt comme ça qui bat la mesure
parce
comme un slammer ou un rappeur. Non, mais c'est les mots
comme
les mots qui vous emmènent peut-être. C'est pas mal, moi je trouve.
Il faut que je peux dire la vérité. Pourquoi
Allez-y.
Je le connais par cœur aussi bien, c'est qu'en fait, je vais vous faire rire. En fait, Mylène Farmer là. L'a mis en musique sur un album que j'ai énormément écouté quand j'étais plus jeune, alors que je te l'ai fait sur la chanson. Mais c'est pour ça que je le connais. Mais je l'adorais déjà, ce poème. Mais bon, voilà, je voulais...
Ça aide, pourquoi pas.
Exactement. Je ne voulais pas non plus trop m'attribuer des lauriers qui ne m'appartenaient pas totalement.
Ah bah,
donc, je partage avec Mylène.
Vous connaissez les mots dans l'ordre, c'est tout.
C'est déjà pas mal.
Y a d'autres livres là-haut que j'aimerais bien aller voir, parce que
volontiers.
Vous avez une grande passion pour la bande dessinée.
Et oui, et ça, c'est dans mon bureau que j'ai mis à l'étage.
Et alors là, je monte les escaliers et Fabien Duchesne, l'ingé son, adore ça parce que ça lui fait un peu de vie, quoi.
Bah, surtout qu'en plus, dans le jardin, déjà, il fallait monter. Il y avait déjà des escaliers parce que la maison était un peu en hauteur par rapport au reste. Il y a encore un étage, si vous voulez, les gars. Hein, c'est la chambre de bébé. Il n'y a rien à lire, mais
y a pas de livre.
Si jamais vous voulez vous faire un peu de sport, c'est possible.
Alors là, on est où ?
Là, on est dans mon bureau. Il y a encore une cheminée, j'ai de la chance, du parquet en pointe de Hongrie.
Un mur vert foncé. Non, c'est du bleu azur.
Bleu canard, bleu vert, on ne sait pas trop.
Magnifique.
Et là, c'est une pièce où j'ai fait faire une grande bibliothèque pour pouvoir y mettre mes bandes dessinées parce qu'effectivement, j'en ai beaucoup et ce n'est pas facile à ranger, les BD.
Et oui, trouver un format de bibliothèque spécial BD, c'est souvent fait pour les romans, en fait.
C'est vrai, donc souvent elles sont trop étroites. Et puis il faut dire aussi qu'il faut une bonne bibliothèque, parce que c'est lourd, les bandes dessinées, c'est lourd. Donc il faut que ce soit du solide, et je l'ai fait faire du coup sur mesure, sur tout un pan de mur de ce bureau.
Bon, là, il y a un bon millier de BD, je pense, à peu près.
Ah, peut-être pas quand même, si. Ah, peut-être, Marc. Ouais, si, ça va vite en même temps.
C'est des vieux albums de votre jeunesse, c'est des nouveaux, vous continuez à en lire, vous êtes passionné.
Il y a des deux. Alors, je continue à en lire, mais j'ai tendance à revenir sur les lectures d'enfance, en fait, sur les lectures de jeunesse. Donc, je rachète parfois des intégrales qui m'ont manqué. J'ai racheté l'année dernière l'intégrale de Philémon, de Fred. C'est pas la bande dessinée la plus connue, c'est une bande dessinée géniale qui était sortie chez Dargaud, que j'avais lu quand j'étais gamin, la bibliothèque. Moi, j'étais inscrit à la bibliothèque de chez moi, à Villebon-sur-Yvette, dans le 91. Et j'allais toutes les semaines prendre ou des romans ou beaucoup de bandes dessinées. Et j'ai adoré ces BD qui m'ont... voilà, c'était un peu à suivre. Donc, à chaque semaine, j'allais à la bibliothèque pour échanger, pour prendre l'album suivant. Et je ne les avais jamais rachetés. Et ils ont sorti une intégrale il n'y a pas très longtemps. Et du coup, ça a été l'occasion... Ça a été l'occasion d'y revenir. Alors, ce n'est pas forcément une BD connue, mais c'est formidable.
C'est très beau.
C'est très joli. Il y a un côté, pour le coup, totalement absurde, puisque c'est un personnage qui passe en tombant dans un puits, dans un autre monde, l'autre côté de la vie, en fait. C'est assez drôle. Il est sur les lettres de l'Atlantique, comme si l'Atlantique, sur une carte, c'était des îles. Océan Atlantique, comme si ça reformait sur la carte quand on voyait écrit Océan Atlantique, en fait c'était les îles.
Génial.
Donc il y a le A, le B, etc. Donc l'un des premiers albums s'appelle Le naufragé du A. Et il explique, le gars, mais je suis perdu sur le A, je sais pas quoi faire, comment. Et après il se retrouve dans un autre A, mais il se rend compte qu'ils sont dans le A de Atlantique et pas de Océan. Enfin bref. Non, mais c'est complètement délirant, mais j'aime beaucoup ce côté absurde.
Il y a des ricochets qui, alors très premier degré.
Ah, Ricochet,
oui. Génial.
Ricochet, c'est un enquêteur des années 60, hein, quand même. Hein,
Mais ce qui est marrant, c'est que c'est un journaliste qui a quand même une Porsche.
Oui, il a une Porsche 911,
ouais,
sa Porsche jaune. Il enquête avec. Il a une copine et le père de cette copine est un commissaire de police et ils enquêtent ensemble et il est génial. Mais on est vraiment sur du polar, vous avez raison, totalement premier degré, c'est des enquêtes et tout, mais il y a du suspense, c'est hyper bien fait, mais c'est très années 60, années 60-70. C'était top, moi j'aimais beaucoup.
C'est très premier degré, mais il n'y a que le titre et le nom du héros, en fait, qui est peut-être humoristique, ou alors...
un jeu de mots, oui.
Ou alors ils n'ont pas fait gaffe, mais...
Ah non, sinon c'est très premier degré, avec des criminels, avec... et moi ça me faisait... Voilà, le trio maléfique, le fantôme de l'alchimiste...
Ça fait peur même de Ricochet.
Cauchemar pour Ricochet, le monstre de Noirville, la maison de la vengeance. Ouais, on dirait des vieux titres de SAS, ouais. Ce genre de truc, ce genre de polar comme ça, c'est rigolo.
Et puis alors là, vous avez un héros que j'adore, mais qui n'est pas très connu, je crois.
Personne ne le connaît, hein, à part nous. Mais
c'est Jérôme K, Jérôme Bloch.
Oui, oui, c'est un dessin... ça, c'est un personnage que je lisais dans Spirou, le magazine Spirou, parce que j'étais abonné à Spirou, des enquêtes policières. Et ce qui était chouette, c'est qu'on lisait dans Spirou les albums avant qu'ils sortent. Ils étaient d'abord publiés dans Spirou à raison de 3 planches par semaine. Ce qui fait que, pour une histoire policière, parfois, tu t'arrêtais en plein suspense. Tu te demandais si le meurtrier allait attaquer comme ça la victime. Et il fallait attendre une semaine de plus pour avoir la suite. Et c'était génial. Moi, j'ai toujours adoré le côté feuilletonnant comme ça.
C'est l'histoire de Jérôme, qui est un type qui doit avoir 18-20 ans.
Ouais.
Un peu mal dégrossi, un peu complexé.
Qui ressemble à rien.
Et qui se met un chapeau mou et
qui se prend pour un détective. Voilà, il se prend pour un détective privé. Il s'est fait un look. T'as raison, c'est le look du détective privé avec le vieil impair et le chapeau mou sur la tête. Mais il arrive à résoudre les enquêtes.
Il est très malin.
Mais effectivement, il a pas l'air.
Mais justement, c'est aussi sa force. Il passe toujours un peu. C'est un peu comme Columbo.
Exactement.
On le voit pas venir.
C'est un peu comme Columbo. On se méfie pas et en fait, il arrive à résoudre les énigmes.
Et vous en relisez, vous les relisez ces BD-là, Ricochet?
Ah ouais, ça
tout
m'arrive.
Ça, ou...
Ricochet, ça fait... Alors pour le coup, Ricochet, ça fait longtemps, mais j'aime bien les garder en fait. C'est ça qui est chouette. J'aime bien les avoir, pouvoir de temps en temps les ouvrir, les regarder.
Bon, ben on vous prend pas plus de temps justement. Merci beaucoup, Christophe Beaugrand.
Ah bah avec plaisir. C'était très agréable cette petite balade. Mais là, vous m'avez donné envie de relire beaucoup de trucs finalement. Donc ouais, il va falloir que je m'y remette.
Merci beaucoup, Christophe.
J'ai fouiné des choses dont j'avais complètement oublié l'existence.
Et je rappelle le titre du livre de Christophe Beaugrand, Fils à papa, c'est chez Plon. Dans un instant, on passe chercher de quoi remplir encore notre bibliothèque. Direction la librairie Lamartine, chez Stanislas Rigaud. A tout de suite.
La Voix est livre.
Nicolas Carreau.
La Voix est livre, le retour. Il est l'heure de passer voir Stanislas Rigaud à la librairie Lamartine. C'est dans le 16e arrondissement de Paris. Bonjour Stan.
Bonjour Nicolas.
Alors, on a deux coups de cœur, très différents, comme d'habitude, avec vous aujourd'hui.
Oui, alors, c'est effectivement... Là, on est déjà un peu en phase fin d'année. Alors, je vous propose deux pépites. Deux gros coups de cœur, chacun dans leur univers. Le premier, c'est le retour de Cédric Banel avec L'espion français aux éditions La Bête Noire, Robert Laffont.
Alors, le retour, moi, j'avais pas vu l'arrivée. Mais il faut nous expliquer qui il est.
Alors, c'est un auteur de polar qu'on avait déjà repéré, effectivement, avec ses deux premiers romans. Il revient avec donc L'espion français. Gros coup de cœur qui nous plonge en Afghanistan. Donc, quelques temps avant la chute de l'Afghanistan. C'est-à-dire que les talibans sont là, ils sont partout. On sait que l'Afghanistan va tomber, en fait, mais elle n'est pas encore tombée. Et dans ce contexte, pour le moins explosif, des infirmières japonaises se font enlever. Et le livre va donc s'ouvrir en deux. D'un côté, on va suivre les policiers afghans chargés de l'enquête, et on plonge dans cet univers avec les yeux souvent écarquillés. Et de l'autre côté, on va suivre les services français qui sont en charge de l'enquête, puisque celle-ci a des répercussions jusque sur le territoire de France. Voilà, donc 1-2-1-2, on va alterner. C'est construit extrêmement nerveusement. Ça ferait une formidable nouvelle saison pour, bien évidemment, le Bureau des légendes. C'est passionnant du début à la fin. Excellent divertissement, gros polar de cette fin d'année.
Et alors, quand je suis arrivé tout à l'heure, avant d'allumer le micro, vous m'avez sauté dessus avec ce livre-là de Frédéric Laffont, Une vie par le menu. Vous m'avez dit que c'était votre coup de cœur absolu en ce moment.
Alors effectivement, c'est une très grosse surprise. Donc Frédéric Laffont, grand reporter, il a eu le prix Albert Londres, va nous raconter dans Une vie par le menu aux éditions Iconoclaste la vie de Bernard Pacot, le grand chef, peut-être même le plus grand chef français en activité aujourd'hui. Il s'occupe de l'Ambroisie, il dirige et est propriétaire de l'Ambroisie, ce 3 étoiles de la place des Vosges. Alors une fois que je vous ai dit ça, on a l'impression qu'on a un peu fait le tour. Et en fait, c'est là que ça commence. C'est là que ça commence, car ce livre à la frontière du roman, à la frontière du roman par sa qualité littéraire. Dès la première page, on est embarqué dans cette histoire formidable qui va nous plonger au fin fond de la campagne française. Bernard Pacot a un destin assez hors du commun, une vie pour le moins rocambolesque, c'est le moins qu'on puisse dire. Et au travers de cette vie portée par l'écriture de Frédéric Laffont, moi j'ai trouvé que c'était un livre qui avait toute sa place avec les meilleurs livres de Michel Bernard, les meilleurs livres effectivement de Madame Laffont, l'autre. C'est un bijou de littérature qui va nous raconter bien évidemment le destin d'un homme, mais c'est aussi une bascule de France. C'est aussi un magnifique livre sur la cuisine, sur l'art culinaire. C'est sans doute un des plus beaux livres que j'ai lu justement sur l'art culinaire. Alors, vous n'êtes pas du tout obligé d'être fasciné par le grand restaurant, la restauration, pour aimer ce livre, parce que c'est d'abord une pépite de littérature. Mais en plus, si vous aimez cet univers, c'est un bijou. Il y a des scènes absolument remarquables sur les gestes, sur l'accomplissement au travers de l'acte de cuisine, en fait. C'est un livre que je n'avais absolument pas entendu. Je l'ai lu d'une traite et depuis, effectivement, j'en parle à tout le monde parce que je trouve qu'en cette fin d'année, c'est un livre qu'il faut lire, qu'il faut offrir. C'est un livre un petit peu en marge, puisqu'effectivement, ce n'est pas vraiment un roman, mais ce n'est pas non plus un livre de cuisine, loin s'en faut. Essayez Une vie par le menu de Frédéric Laffont, vous ne le regretterez pas.
Défendu comme ça par Stanislas Rigaud, ça fait envie quand même pour un auteur. Tout à l'heure, je vous ai vu mettre dans la main un livre à un client, là, et vous l'avez subjugué, il est parti directement à la caisse. C'est magnifique. Et d'ailleurs, il y a plein de cartons là, dans la librairie Lamartine qui est un peu encombrée. Qu'est-ce qui se passe ?
C'est Noël. En fait, on a les arrivages. Alors, les arrivages avec les histoires et de livraison et de papier dont vous avez certainement entendu parler ces derniers temps sont un petit peu perturbés. C'est-à-dire que d'habitude, on a quand même le gros de l'arrivage en octobre. Là, le gros de l'arrivage est plutôt en novembre. Aujourd'hui sort effectivement notamment le Ken Follett, hein, par exemple. Donc tout de suite, ça vous fait une palette supplémentaire dans le magasin. Donc voilà, on en est là. C'est une très bonne période parce qu'on découvre plein de choses. Il y a plein de beaux livres qui vont annoncer les ventes des semaines à venir. Et en même temps, c'est une période qui est assez complexe parce qu'il faut ranger tout ça à un moment où, effectivement, les gens ne sont pas encore vraiment dans l'idée d'acheter des livres pour Noël.
Eh bien, on vous laisse travailler. Merci beaucoup, Stan. Bon courage.
Merci, bonne journée, Nicolas.
Retour à Europe 1, toujours avec Jessica Nelson et Marie-Christine Lemardelet et Sébastien Bordenave, qui nous a rejoint pour sa chronique bande dessinée. Bonjour Sébastien.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous nous proposez deux albums et on commence avec L'homme qui voulait être vieux.
Et oui, comme vous Nicolas, je dépense des sommes folles en crème de nuit et autres gels d'hydratation anti-cerne. Et bien là, voici un héros de BD qui voudrait être vieux. Théodore a un prénom de vieux, mais il est jeune, 45 ans. Problème, il se sent en décalage total avec notre monde hyper concurrentiel qui glorifie les winners à dents blanches. Du coup, il prend une décision radicale, s'installer définitivement dans une maison de retraite. Théodore y rencontre une galerie attachante de personnages, comme un grand-père fan du jeu Mikado, mais qui a la maladie de Parkinson. C'est ballot. Ils ont aussi des spectacles dans le réfectoire, notamment Jackie Pélisson et son orchestre, qui interprète du Michel Fugain, chante la vie chante comme si tu devais mourir demain. Bref, c'est de bon goût en maison de retraite. Une BD vraiment sympa, pas si reposante que ça, un scénario avec moult rebondissements sur fond de scandale, le business ragoûtant des maisons de retraite, qui est un vrai sujet. Bref, une BD réussie à conseiller.
Ben, qui va en maison de retraite pour sentir jeune relativement aux pensionnaires, c'est ça ?
Pour être pour se sentir jeune vieux, vieux jeune, c'est vous qui voyez.
Deuxième BD, vous m'avez dit un monument qui rend hommage aux femmes.
Et quel monument ? Glénat sort Réserve, l'homme qui aimait les femmes. Un album qui regroupe les meilleurs et les pires dessins de celui qui aurait eu 80 ans cette année. Je ne vais pas faire ma dolto, mais son amour des femmes vient sûrement de sa maman, femme de ménage, qui l'a élevée seule, mais aussi de celle au pluriel qu'il a fréquentée à Harakiri. Réserve y débute sous Cavana et le professeur Choron. Il n'est même pas majeur et il rencontre les filles qui posent nues en une du magazine. Réserve a les yeux qui brillent, sa femme Michel le raconte dans un documentaire. C'était un amoureux absolu des femmes. Il avait pour elles la solidarité de leur combat. Il était séduisant mais pas prédateur. Dans cet ouvrage, on retrouve des thématiques cruellement d'actualité. Pêle-mêle, le manque de formation de la police devant les femmes victimes de violences sexuelles, les religions qui oppressent, la charge mentale, le genre qui bride les mentalités, l'avortement, le viol, les inégalités salariales, la liberté sexuelle. À chaque fois, Réserve fait mouche en caricaturant avec violence des situations qui le sont encore plus dans la vraie vie. Alors, difficile de raconter de vive voix un dessin, mais quand même, page 100, page 100, une femme visiblement mère au foyer, épuisée, se couche dans le lit conjugal. Son mari moustachu bedonnant se déshabille et la rejoint avec autant de sex appeal qu'un chasseur sous pastis. Et elle se demande, mais qu'est-ce que je vais faire à manger demain, du cabillaud, du gratin de chou-fleur? Pendant ce temps-là, son mari fait sa petite affaire en très très peu de temps, à peine fini qu'il ronfle déjà. Et là, la femme de se dire, ah, ça y est, j'ai trouvé ce soir, je vais faire du lapin. Voilà, si vous êtes pas et que vous vous baladez du côté du cimetière Montparnasse, allez voir la tombe de Réserve. Elle est en forme d'aile d'avion. C'était un amoureux des femmes, mais aussi passionné d'énergie solaire et d'aviation. Peut-être que vous aurez la chance, comme moi, de tomber là-bas sur Michel, son épouse, qui continue de veiller sur lui et de faire vivre avec talent celui de Réserve, un type hors du commun.
Merci Sébastien, vous nous rappelez les titres de vos deux BD.
Donc L'homme qui voulait être vieux, de Thomas Godin, Christophe Girard et Olivier Domer, chez Marabout, et Réserve, l'homme qui aimait les femmes, publié chez Glénat. Je vous laisse avec une citation d'un personnage de BD, aujourd'hui c'est Snoopy. Il a dit « Hier j'étais un chien, aujourd'hui je suis un chien, demain je serai probablement un chien ». C'est vraiment difficile d'avoir de l'avancement.
Et il y a même une préface de Jean-Marc Parisi, l'écrivain qu'on aime bien.
Je vous le confirme.
Dans le livre consacré à Réserve. Merci beaucoup Sébastien et merci à vous, Marie-Christine Lemardelet, d'être restée avec nous. Et à vous aussi, Jessica Nelson, peut-être un manuscrit de bande dessinée, des planches un jour dans l'édition des Saint-Pères. Voilà, il y en a des mythiques aussi et bravo pour tous vos manuscrits qui sont des objets magnifiques et vous créez aussi l'air de rien, comme ça, une sorte de conservatoire géant en les distribuant à des milliers de particuliers. Et donc je rappelle, le dernier, c'est Les raisins de la colère de Steinbeck, et il y a les contes de Grimm aussi.
Clarie.
Magnifique cadeau de Noël. Merci beaucoup Jessica Nelson.
Merci.
À bientôt.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide, à Boris Paczynski, l'homme aux doigts de fée, et à Grégory Delpeuch pour la programmation musicale. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.